voulez bien discuter de la musique par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du compte. Non?
Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment?
Ouais.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la curie au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, merci à vous d'être à l'écoute du magazine d'info du mardi soir. Hein. Vous savez, sur les deux antennes du réseau des radios campus. Ce mardi, comme tous les deuxièmes mardis chaque mois, j'accueille avec plaisir les amis du monde diplomatique d'Orléans pour décrypter en quelques articles le diplôme du mois en cours. Je salue Boris qui revient. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
En bon connaisseur des pays d'Europe de l'Est que tu es, tu as choisi de l'article qui parle d'Estonie, petit pays limitrophe de la Russie, et évidemment impacté par la guerre entre l'ancienne puissance et l'Ukraine. Hein. En tout cas, merci à toi d'être là. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Toi, tu nous parleras des États-Unis et de leurs prisons.
C'est ça.
Oh, quelle histoire.
Spécialiste des prisons. Ou des États-Unis.
Qu'il a beaucoup fréquenté.
Les prisons, ni l'un ni de l'autre, mais j'ai trouvé que c'était...
Très bel article également. Victor, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Victor va nous parler de l'effervescence féministe au Proche-Orient.
C'est ça.
Waouh, c'est un article qui va choquer certains, je pense.
Oui, j'ai trouvé pas mal d'informations très pertinentes dans cet article et effectivement, ça a pas mal retourné certaines préconceptions que je pouvais avoir des pays arabo-musulmans.
Ben moi aussi, je l'ai relu là et pour bien comprendre tous les mots, en tout cas, tu nous en parles dans un juste après Henri. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Pour le sommaire de ce diplôme du mois de juillet que vous devez emporter en vacances, hein, vous le redites.
Eh oui, il faut l'emporter en vacances, bien sûr, parce que comme même en été, vous savez très bien que le diplôme est riche.
Absolument.
Oui, très riche. Et oui, et donc là ça se vérifie encore pour ce diplôme du mois de juillet 2023. 23, oui. Et donc j'ai lu aussi, comme Victor, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cet article. Et évidemment, je lui laisserai le développer sur l'effervescence féministe au Proche-Orient, l'article d'Hicham Alaoui, où on a appris beaucoup de choses et aussi... je trouve que c'est là qu'on retrouve l'esprit du diplôme, c'est-à-dire qu'il apporte toujours des informations que l'on peut partager ou pas, mais ça permet de se questionner, de se dire, de réfléchir, de se dire oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas telle ou telle chose qui peut jouer là-dessus aussi?
Absolument.
Dans le sens, sans dévoiler le sujet. Peut-être que le besoin s'en faisait sentir. J'ai lu beaucoup d'intérêt. Je me suis tourné vers le médical. Alors, Le Monde diplomatique n'est pas devenu pour autant une revue médicale, mais j'ai lu également avec beaucoup d'intérêt l'article d'Emmanuel Venet, « Détruire la psychiatrie publique », qui fait écho également à un article de Philippe Baquet, « La Roumanie, voie de recours des étudiants français en médecine ». Donc, deux articles qui traitent de la médecine au sens large. C'est assez intéressant à lire quand, en plus, on voit ce qui se passe tout près de chez nous. Donc, notamment, quel est l'état de la psychiatrie dans le Lorrain. Donc, on sait déjà qu'on c'est bien connu que c'est un désert médical. C'est un désert médical dans le sens large. Alors,
je pourrais vous en parler.
Je ne rencontre pas en psychiatrie. Oui, n'hésite pas, Victor, bien sûr, si tu vas nous apporter des éléments. Donc, effectivement, la loi de 1838, c'était la loi qui faisait que les fous, à cette époque, on n'y allait pas par quatre chemins, étaient enfermés, car ils inspiraient la crainte, bien sûr, de la société. On s'est aperçu qu'avec cet enfermement massif, il y avait d'ailleurs une surmortalité dans les hôpitaux psychiatriques français. Et quand même... Au bout de pas mal d'années, on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire et on a imposé le système de la sectorisation. C'est-à-dire qu'on a voulu fermer des lits dans les hôpitaux et créer des centres médico-psychologiques essaimés un peu dans la ville. Donc c'était une psychiatrie désormais plus accessible, ambulatoire et plus respectueuse de l'insertion des patients. Donc c'était le mouvement des aliénistes. Oui. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des résultats qui pouvaient être intéressants. On a profité aussi du fait qu'après les années 60, on a découvert des psychotropes plus efficaces. Mais c'est sans doute le fameux mouvement de balancier, mais le balancier s'est bloqué actuellement, et depuis les années 2000, sur un reflux de la psychiatrie sécuritaire. La psychiatrie est devenue plus enfermement que soin.
Tout à fait.
Et alors que avec la psychiatrie désenclavée, on va dire, on était passé d'hospitalisation libre de 7,8% à 74%. Mais donc et en même temps, donc comme je le disais à l'instant, on a constaté une décrue du nombre de lits. On est passé de 122 432 lits en 1975 à 41 177 en 2016. Mais donc, on a voulu réformer les choses sous les fourches codines, toujours pareil, des budgets. Et donc, y compris l'hôpital psychiatrique, on le voit pour l'hôpital en général, mais pour l'hôpital psychiatrique, c'est la même chose. C'est un hôpital entreprise qui doit avoir des rendements, qui doit rendre compte et qui doit lui aussi faire mieux avec moins de moyens. Évidemment, c'est très facile à réaliser. Et donc, on a appliqué cette méthode à la psychiatrie en France et on a vu arriver là aussi, le phénomène est gros comme une maison, c'est-à-dire que deux psychiatries, la psychiatrie rentable pour, par exemple, traiter les personnes qui sont en burn-out, etc. Et puis la psychiatrie publique, on lui a laissé, évidemment, ce qui aux yeux du privé, n'était pas rentable. D'ailleurs, il y a eu la création en 2007 de centres experts, comme par hasard financés par AstraZeneca, Sanofi, Servier, Roche. On voit où étaient leurs intérêts à ce moment-là. Et donc... il y a au niveau de la psychiatrie une hémorragie, on parlait de désert médical, mais une hémorragie de personnel impressionnante, notamment pour ce qui nous concerne sur Orléans, à Domaison, il y a des manques importants de psychiatres, de personnel, infirmiers et autres. L'article parle, et c'est vraiment le bon mot, d'une hémorragie de personnel. Et donc, cette psychiatrie, on lui demande là aussi de traiter vite pour traiter mieux. Et on ne sait pas où on va aller, mais comment demander l'impossible.
Le titre même de l'article, « Détruire la psychiatrie publique, manque de moyens, approche sécuritaire » veut tout dire.
Oui, voilà. Tout est résumé, effectivement, dans ce titre. Et donc, il n'y a pas que la psychiatrie qui souffre. Marqué, vous allez me dire, c'est l'ironie du sort, même les médecins peuvent souffrir.
Oui.
Mais c'est le témoignage de plusieurs étudiants qui ont fait une fois leur première année de médecine et ont échoué, et puis une deuxième année ont échoué, et qui donc se sont tournés vers la voie roumaine pour faire des études de médecine, puisque la Roumanie est désormais dans l'Europe, donc les diplômes roumains sont reconnus en France. Et donc, il y a de plus en plus de Français. D'ailleurs, parmi les étudiants en médecine étrangers, dans cet article, Philippe Baquet prend l'exemple de l'université de Cluj, qu'on appelle la Silicon Valley roumaine. Donc, à Cluj, les étudiants étrangers sont en majorité français. Et c'est donc, comme je disais, leur ultime chance de décrocher le diplôme. Donc, effectivement, en France, depuis 1971, mais aucun gouvernement n'a vraiment essayé d'endiguer le phénomène, eh bien, on se cachait derrière le numerus clausus. C'est-à-dire que c'était pour faire une médecine, nous disait-on, d'excellente qualité. C'était aussi pour restreindre le nombre de médecins et restreindre, évidemment, éviter que les dépenses de la Sécu augmentent trop vite.
Et que les médecins gagnent un peu plus d'argent.
Éventuellement, comme ça, ils gagnent un peu plus d'argent. Donc, effectivement, la sélection en médecine première année en France, c'est de la folie. Vous avez des jeunes qui étudient, qui bachotent pendant 15 heures sur 24 et qui sont pas... Il y en a que très peu. Le taux de réussite est d'environ 15%. Il y en a que très peu qui arrivent en deuxième année. Donc, beaucoup se tournent vers la Roumanie, comme l'explique Philippe Baquet dans son article, et également, d'ailleurs, aussi vers la Belgique, donc pour pouvoir quand même faire des études de médecine. Donc... ces gens-là, c'est la filière étrangère. On leur fait bien sentir encore en France que c'est quand même une sous... ils se sentent un peu sous-évalués. Néanmoins, même si leur diplôme est tout à fait valable, on leur fait sentir qu'ils n'ont pas fait leur médecine en France.
D'ailleurs, il me semble que... parce que moi, du coup, j'ai une copine qui a fait médecine en Belgique, justement, parce qu'elle a raté médecine en France. Du coup, elle est partie faire médecine en Belgique. Et il me semble qu'en fait, maintenant, il y a même un concours qui est réservé aux étudiants étrangers qui reviennent en France, qui veulent du coup devenir médecin en France. Et ils sont obligés de repasser un concours en France pour être sûr qu'ils aient bien acquis...
Oui, voilà, comme un test.
Ouais, c'est ça, comme un test pour vérifier qu'ils aient bien toutes les qualités d'un médecin tel qu'on l'attend en France. Quoi.
Effectivement.
Et puis à Orléans, nous avons cette formation... décidé par la municipalité de formation d'étudiants à Zagreb. C'est l'autre côté, c'est pas,
voilà,
c'est pas loin.
Ça se développe. Donc, ironie du sort, d'ailleurs, on se disait, on trouve toujours plus pauvre que soi. Cette filière étrangère en Roumanie avait été créée initialement pour des étudiants plutôt du Maghreb, d'Algérie ou de Tunisie, notamment. Et donc, finalement, comme on a trouvé que le système était plutôt bon, d'ailleurs, la formation à Cluj, elle n'est pas vraiment contestée. On dit d'ailleurs, alors après, c'est un point de vue, que c'est plus pratique en Roumanie de faire ses études de médecine. Il y a plus de cas pratiques qu'en France, mais à la sortie, ça fait de bons médecins. Et d'ailleurs, il ne faut pas être hypocrite. C'est ce que dit Philippe Baquet dans son article, c'est que beaucoup de médecins roumains sont attirés, on les attire en France.
Oui, c'est vrai.
Ce qui fait que non seulement ils nous forment des étudiants, mais en plus on leur pique leurs médecins et eux-mêmes se retrouvent à leur tour en manque de médecins. C'est assez cocasse. Donc c'est assez intéressant, c'est très intéressant de lire cet article de Philippe Baquet. Je ne vais pas prendre trop de temps pour laisser la parole à mes petits camarades. Je voulais aussi parler d'un article de Benjamin Fernandez qui commence en première page de ce diplôme, au risque de la catastrophe industrielle. C'est également un article très intéressant du diplôme de ce mois. On commence par voyager avec Emmanuel Macron du côté de Saint-Nazaire et il se flatte de l'installation du premier parc éolien en mer français. Et alors qu'autour de lui, Benjamin Fernandez ne donne pas de leçons, mais il se pose les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il se dit, au milieu, dans ce site-là, il y a des raffineries de pétrole, il y a plein d'industries polluantes, dont 9 sont classées Céveso.
Oui.
Et donc, parmi ces sites industriels qui peuvent être donc, classés Céveso, il y a le site Yara, qui est producteur d'engrais chimiques, les mêmes que ceux qui ont explosé à Beyrouth. Voilà. Alors, il explique dans cet article, Benjamin Fernandez, qu'il y a des sanctions. Mmh. Alors, on leur met des sanctions du style, c'est comme si nous, on était en excès de vitesse et puis on nous demande un euro. Mmh. Alors, ils payent peut-être, même des fois d'ailleurs, mais c'est complètement ridicule par rapport au chiffre d'affaires de ces boîtes. Ça ne les gêne pas beaucoup, les sanctions. Si vraiment les sanctions devaient être durcies et si la réglementation française est trop contraignante, eh bien, on exporte, on n'a pas d'état d'âme, on exporte donc ces activités-là vers des pays aux réglementations moins sévères et la fiscalité plus attractive, nous dit Benjamin Fernandez dans cet article. Et donc, il explique aussi très bien une complicité vraiment entre les pouvoirs publics français, donc les préfets sur place, et donc les industriels qui souhaitent s'installer ou fonctionner. D'ailleurs, ça fait penser à un article dont on a parlé le mois dernier sur l'installation des microprocesseurs dans les Alpes qui utilisent l'eau pure des Alpes. Et personne ne dit rien parce que quand elle est rejetée, elle est forcément au moins un peu polluée. Quand elle est rejetée, cette eau, l'eau, elle est beaucoup moins pure. Mais bon, on a favorisé des emplois. Et puis, dans cet article aussi, il est expliqué qu'il y a en tout et pour tout à peine plus de 1600 inspecteurs en France pour contrôler environ 500 000 sites qui pourraient être potentiellement dangereux. Dans la région de Saint-Nazaire, pour reprendre la conclusion de l'auteur, dans la région de Saint-Nazaire, la population est vivement incitée à se protéger des risques dont elle n'est pas responsable. C'est bien résumé, cette conclusion. Encore une fois, je ne vais pas citer tous les articles. Il y a un article très intéressant sur l'impossible recentrage du Parti populaire espagnol de Maël Mariette qui explique que les Espagnols aussi, comme les Italiens, comme ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver ici, se font gangréner par des partis de droite, donc en Espagne, c'est Vox. L'extrême droite devient fréquentable et gagne des sièges un peu partout. Je ne vais pas citer tous les articles. On va faire un clin d'œil à Henri qui n'est pas là. Il y a un article sur la Corée du Sud.
Oui, on pensait vraiment que voilà, s'il était là, il aurait choisi.
On se permet pas d'aller le présenter. On va pas faire on va pas gaffer, en quelque sorte.
Mais vraiment, lisez cet article pour comprendre que ce qu'on voit de la Corée du Sud, ici, ce qu'on nous en dit, en tout cas, pays prospère, à la prospérité éternelle, tout ça, c'est faux. Et ils en sont à 60 heures par semaine.
Mais c'est ça. Ils allaient rajouter en plus.
Ils vont rajouter des heures de travail pour. Ouais. Et on voit dans cet article la paupérisation d'une partie de la population sud-coréenne. Lisez ça avec le diplôme. Évidemment, revenez sur tout ce qu'on vous dit ailleurs. Vraiment. Une présentation.
Encore un petit mot. Oui. Non, pas dans notre article, mais je n'oublierai pas. On voulait saluer quand même. Vous serez d'accord avec moi, notre camarade Alain,
oui.
Qui après de plein d'années de bons et loyaux services, cesse ses services. J'espère qu'il ira toujours le diplôme avec toujours son sens critique, que nous lui connaissons et que nous lui accordons bien volontiers. On le remercie.
Absolument.
Il a été toujours avec nous,
vraiment.
D'un précieux appui. Voilà.
Et quand tu veux, Alain, si tu veux, sur
un article. Nous, on aime bien les gens qui analysent, même si ce n'est pas comme nous.
Absolument. C'est ça.
On salue.
Un peu de musique et puis nous partons pour le Proche-Orient. Oui, on a choisi tous les deux de passer Iber-Félix Thiéfaine parce que ce monsieur se fait rare depuis quelques années sur les ondes.
Mais il n'est pas jeune non plus.
Mais bien sûr, évidemment. Mais on pourrait quand même passer ses morceaux comme celui-ci.
Bien sûr.
On pourrait passer Lorelai, Sebasto Cha.
C'est un vieux.
Ah ouais, très vieux. Ouais. C'est 82, je crois, que c'est sorti.
C'est ma jeunesse.
Écoutez cette mélodie, cette parole.
Boris va le chanter.
Quelle mélodiste en plus. Thiéfaine, Lorelai.
blues a déjanté sur ton corps animal. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extra balle et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal. Dans cet hôtel paumé au mur glacé dans les. Et pendant que le lit croise l'aéropostale, tu me dis reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit.
Lorelai, Lorelai,
ne me lâche pas. Mon armure dans un geste un peu lourd, en me disant reviens, maintenant je te connais. Tu me rappelles mes amants rue Barrée à Hambourg, quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête, avec le cœur naufrage au bout des bars de nuit. Et tu me dis reviens, je suis ton jour de fête, reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie.
J'ai vérifié, c'est bien 1982, l'album Soleil cherche futur. À l'instant, dans Un bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, Hubert Félix Thiéphaine, Lorelai, Sébasto, Chat. Un bâton rompu, on continue. Alors, on continue après normalement un jingle.
Un bâton rompu avec Hassan Kerim.
C'est moi-même. Et on continue avec Victor, effervescence féministe au Proche-Orient. Cet article commence par un événement. Alors, cette Saoudienne qui est partie dans l'espace, vous vous rappelez peut-être.
Oui, oui, oui.
Et puis, continue par la mort de Mahsa Amini, cette jeune Iranienne qui a été frappée à mort
par la police des
mœurs. Et ça a déclenché énormément de choses là-bas, des jeunes filles qui enlèvent leur voile. Et puis surtout, cet article va à rebours de débat en France. Je crois qu'on a parlé de hijab au foot il n'y a pas longtemps. On a parlé de quoi d'autre? Des voiles, tout le temps d'ailleurs.
Oui, depuis, des burkinis, voilà. Ça revient régulièrement sur l'actualité.
Et cet article revient quand même sur, à rebours justement de ces... Je te laisse la parole.
Oui, donc du coup, cet article part du coup de la mort de Mahsa Amini. Oui, je suis désolé, je vais écorcher tous les noms. Hein. C'est l'habitude maintenant.
Fin effort.
Donc, qui en fait a remis la question féministe sur le devant de la scène en Orient et particulièrement en Iran. Alors, l'autrice de l'article, c'est Hisham Alaoui. Elle propose d'abord un premier retour par l'histoire. En fait, elle explique très bien que, en réalité, la question de la femme au Moyen-Orient est d'abord liée en fait à l'héritage colonial patriarcal. Et en fait, avant la colonisation, même si jamais il existait des normes misogynes assez machistes, dans les pays musulmans, il y avait quand même une certaine forme de liberté pour les femmes. Il y avait une souplesse qui existait. Des femmes pouvaient occuper des postes politiques. Elles étaient libres de contracter, d'hériter, de travailler, etc.
Ça existait vraiment.
Ça existait vraiment. Mais en fait, l'arrivée des Occidentaux a amené les prescriptions de la charia, qui avant était quelque chose qui était débattu entre intellectuels, etc. Il n'y avait pas une explication unique, a fait en fait de la charia une loi en fer forgé qui dorénavant réprimait la femme, mettait la femme à un rang inférieur de celui de l'homme. C'est marrant, en fait, ça m'a fait penser beaucoup à la fois où j'avais fait une chronique sur le Rwanda et où on nous expliquait que en réalité Hutu et Tutsi c'était pas des catégories figées avant l'arrivée des Occidentaux.
Non, absolument.
C'était juste des catégories socio-professionnelles en réalité. Et qu'en fait c'est l'arrivée de l'homme blanc qui décide que à partir de maintenant il y a les Hutu et les Tutsi et la séparation c'est inséparable, il est impossible de passer de l'un à l'autre. Et en fait, c'est un héritage colonial qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et qui fait en sorte que les Hutus et les Tutsis ne se reconnaissent pas comme étant des peuples différents. Donc ça m'a fait penser un petit peu à ça. Elle revient un petit peu aussi sur la question de l'homosexualité, par exemple.
C'est un monsieur, l'auteur.
Ah, Hisham Alaoui, je pensais que c'était une femme.
Non, c'est d'ailleurs le cousin, je crois, c'est le cousin direct de...
Ah, je pensais qu'Hicham, c'était féminin.
De Mohamed VI. Il est...
Oula, tu vas avoir des problèmes.
Ouais, non, mais ouais, c'est important, je crois, de remettre ça en place. Fâché avec la famille, son père également, son père était cousin de Hassan II, fâché, donc... Il habite en Suisse et souvent il est l'auteur de choses comme ça. Mais par contre, il a fait des études vraiment très poussées de l'histoire de l'islam. Donc voilà, je te relaisse la parole.
Donc du coup, il revient sur les questions des homosexuels, par exemple, où il y avait une certaine porosité avant la colonisation qui, en fait, a établi une différenciation stricte entre homo et hétéro et a fait en sorte de faire réémerger des punitions pour les personnes s'adonnant à des actes dits sodomites.
C'est ça.
Voilà, etc. Mais qu'en fait, apparemment, avant la colonisation, c'était des actes qui n'étaient pas forcément nécessairement condamnés dans les pays arabo-musulmans. En fait, on assiste à un paradoxe. C'est que l'Occident veut châtier la vision rétrograde des femmes dans les pays de culture arabo-musulmane, alors que le féminisme était condamné en Occident à l'époque, et que les femmes n'y étaient pas forcément beaucoup plus à l'aise. Même elles avaient moins d'autonomie financière, par exemple. Il revient dessus dans l'article avec le fait que les femmes musulmanes avaient le droit de contracter, d'hériter, etc. et tout. Et l'émancipation pour les colons, évidemment, l'émancipation de la femme ne peut passer que par une occidentalisation. Donc on a des lois répressives qui favorisent l'égalité des sexes, par exemple les dévoilements forcés qui ont eu lieu dans certaines colonies. Mais pas forcément, quand on dit certaines colonies, on pense forcément à la France et au Royaume-Uni, mais là il prend l'exemple des pays d'Asie centrale où quand l'URSS est arrivé à organiser des dévoilements forcés au nom de l'idéal communiste athée. Et sinon, il y a un autre pendant de ça, c'est depuis la fin de la colonisation, c'est le despotisme éclairé. Par exemple, le Shah d'Iran, bon, ça date un peu, mais sinon, on a l'exemple de Mohamed Ben Salman, qui en fait promulgue des lois sur la liberté des femmes pour en fait nier leurs droits démocratiques. Voilà, il donnait un exemple.
Sur le permis de conduire.
Oui, voilà, oui, Ben Salman a autorisé les femmes à conduire, mais à côté de ça, a emprisonné plusieurs dizaines de féministes qui réclamaient des droits démocratiques.
C'est ça.
Voilà, donc tout ça, c'est une forme de féminisme d'État, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est par le haut que s'impose la bonne volonté, qu'elle soit occidentale du coup ou despotique. Mais du coup, ça ne prend que très peu dans la société. Une troisième influence qui est soulignée par l'auteur, du coup, et non pas l'autrice, c'est l'influence des ONG, des institutions multilatérales qui contournent l'État et en fait placent la question des droits des femmes au centre de leur dispositif. Mais malheureusement, elles ont tendance à effacer la question des demandes démocratiques pour se concentrer uniquement sur la participation des femmes à l'éducation et à l'économie. C'est une politique qui est... l'auteur parle de tokenisme, c'est-à-dire qui a tendance à se focaliser plus sur le symbole que sur la réalité concrète de la condition des femmes dans ces pays-là. Notamment la question de la pauvreté, de la domination masculine, etc. C'est pas forcément très abordé. On va mettre plutôt en exergue, comme tu l'as dit, la première femme à être envoyée dans l'espace par un pays arabo-musulman.
Elle est saoudienne, bien sûr.
Ou bien des exceptions comme ça qui servent de point de référence plus que le développement de la condition de la femme de façon générale. Voilà, donc dans cette cas, donc elle parle de féminisme, il parle de féminisme inspiré par le haut, la colonisation, l'autoritarisme ou le tiers-mondisme. Et le problème, c'est que d'une part, ça renforce l'autoritarisme. Donc on a donné l'exemple de Ben Salman. Et ensuite, ça crée une hostilité des forces conservatrices locales qui, bien évidemment, du coup, voient le féminisme comme étant ou bien une forme d'importation étrangère ou bien une lubie d'élites qui veulent justement sabrer les fondements de la tradition et de la communauté de base, quoi. Donc les luttes féministes, d'après l'auteur, gagneraient à s'inspirer d'expériences historiques. Il en cite trois différentes qui pourraient être intéressantes. D'abord, fondre le sécularisme dans le nationalisme, avec l'exemple du kémalisme ou du bourguibisme. Donc l'idée, ce serait de faire en sorte que le nationalisme s'empare du sécularisme comme étant un moyen d'émancipation des femmes, etc., et que du coup, ça devienne partie prenante de l'identité nationale et nationaliste, de lutter pour l'émancipation des femmes, comme ça a été le cas en Turquie, par exemple, où il y a eu un vrai travail qui a été fait par Mustafa Kemal d'éducation des populations et des femmes, et d'émancipation des femmes, etc. Et tout. On leur a donné le droit de vote, etc. etc., etc. avant la France, d'ailleurs, cela dit. Le problème, c'est que ça bloque dans les milieux religieux et que...
Ah bon ? Ah bon ? Non. Si peu. Si. T'es sûr ?
Ça bloque dans les milieux religieux et on va dire que la tendance est quand même plutôt au retour du religieux sur le... sur la scène politique et sociale, et que le religieux fait partie et d'inspiration. Actuellement, on conçoit plus le religieux comme étant inspirateur du nationalisme que le sécularisme.
C'est ça.
Voilà, c'est je suis algérien, donc je suis musulman. Voilà, c'est assez indissociable dans la plupart des pays arabo-musulmans, ces notions-là. Donc bon, voilà. Ensuite, l'autre option, ce serait celle du féminisme islamiste, donc qui combine foi et pratique, voilà, qui redéfinit la lecture des textes sacrés pour avoir une lecture qui ne soit pas littérale, mais au contraire contextuelle de la charia et des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça est un mouvement qui n'a jamais été très structuré et qui a connu de nombreuses dérives, notamment en Iran dans les années 70, où il y avait, contre le Shah, justement, l'émergence d'un féminisme islamiste qui a cherché à obtenir la libération des droits des femmes. Mais voilà, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, bien évidemment, tout ça s'est écroulé. Et on a eu un retour de bâton. La troisième forme, et celle qui est clairement est la préférée de l'auteur, c'est le féminisme démocratique, inspiré par les printemps arabes. Ça dépasse le clivage traditionnel entre tradition et occidentalisation. Par exemple, la question du port du voile, qui, en fait, selon les pays, du coup... Et abordé différemment, c'est-à-dire qu'au final, on met l'importance sur la liberté des femmes de porter ce qu'elles veulent. Donc, dans les pays où il est obligatoire de porter le voile, on affirme que les femmes ont le droit de ne pas le porter. Mmh. Et dans les pays dans lesquels il est mal vu de le porter, au contraire, on revendique le fait qu'elles aient le droit de le porter. Mmh. Pardon, ma phrase est extrêmement compliquée.
On a compris l'idée.
Ça se comprend quand même.
Voilà, c'est un mouvement jeune qui est très proche des réseaux sociaux et qui arrive, avec, grâce à ces nouveaux canaux, à faire tache d'huile dans la société desquelles on parle, etc. Et ça incarne le féminisme d'avenir, parce qu'il n'est plus uniquement bourgeois et urbain, contrairement aux autres formes de féminisme qui étaient tirées de formes plus occidentales. Voilà, mais malgré tout, l'auteur rappelle qu'il faut rester vigilant, parce que la protection des femmes peut servir des agendas antidémocratiques. Par exemple, le maréchal Al-Sissi en Égypte a pris le pouvoir parce qu'il expliquait que l'arrivée des frères musulmans au sein de la diète là-bas était une menace pour les droits des femmes.
Les droits des femmes, oui, il a dit ça. Oui.
Et voilà, et du coup, ça a justifié son coup d'État et la mainmise qu'il a mis sur l'État derrière et la suppression de plein de libertés démocratiques. Enfin, c'est pas la première fois qu'on parle d'Al-Sissi à l'antenne. Ouais. À chaque fois, c'est assez tartiné. Donc voilà, l'auteur met en garde contre ça.
Ouais. Oui, l'auteur Hicham Ben Abdallah El Alaoui, il est membre du conseil consultatif de Human Rights Watch. Il est bien le cousin de Mohamed VI, il est bien fâché avec lui. Il écrit régulièrement dans le monde diplomatique, notamment sur les gouvernements arabes, le printemps arabe. Deux choses à dire sur cet article, je te dis, je l'ai lu deux fois. Il questionne l'universalité de nos valeurs ici. Est-ce que, voilà, on ne doit pas porter de voile, la démocratie, est-ce qu'elle est naturelle pour tout le monde? C'est son combat depuis longtemps. Je me pose des questions quand même. Son article est pas mal parce qu'il nous parle justement d'un mouvement qui est sur les réseaux sociaux, de plus en plus les jeunes. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On a vu les printemps arabes qui se sont arrêtés très vite.
Je pense, comme l'expliquait Victor, c'est cette voie, alors même si ça paraît utopique, il faut que ça vienne du pays lui-même.
Bien sûr.
Il explique d'ailleurs très bien dans cet article qu'on a voulu leur imposer, comme on impose beaucoup de choses, nos valeurs.
Ce constat-là est vrai.
Il parle de sponsors occidentaux, d'ailleurs. On vous dit qu'il faut bien traiter les femmes parce que c'est bien, parce qu'on vous le dit. D'accord. Mais après... Quand les sponsors, comme il le dit dans son article, occidentaux, ne sont plus dans le pays en Afghanistan, leur retour est terrible. Parce qu'effectivement, avec les talibans, elles ont du coup régressé, pensaient progresser un peu. Les États-Unis étant là et d'autres pays occidentaux voulaient faire progresser le féminisme dans ce pays. Mais du coup, malheureusement, quand ils s'en vont...
Le retour de bâton est terrible.
Oui, alors elles ont régressé dans leurs droits dans ce pays-là.
C'est clair, c'est clair. Ben, merci pour ton rendu de cet article. À lire, première page du diplôme, donc c'est un des premiers articles que j'ai lus. Très, très, très intéressant pour élargir votre,
culture générale.
C'est ça, on peut dire ça.
C'est ça que tu cherchais ? Le magazine de l'actualité Alter International.
Alter International. Nous partons maintenant pour les États-Unis avec toi, Pierre. Et puis, pour. Alors, ça, on le voit souvent dans les films, les gens qui pourraient éviter l'incarcération préventive.
DSK en a profité.
Exactement.
Mais
j'allais commencer par ça.
Pas par DSK, parfait.
Pardon, Pierre, je t'ai piqué ton intro.
Par DSK.
Ce qui est intéressant, Pierre, c'est le titre de cet article de Charlotte Recoquillon. Aux États-Unis, la liberté à but lucratif.
Exactement.
C'est quoi le but lucratif ?
D'ailleurs, je ferai ma petite conclusion. Je commence par vous parler de ma conclusion, où il donne tout un tas de titres qui ont déjà paru sur la justice et les États-Unis à la fin, là, dans le monde diplomatique. Donc, la justice aux États-Unis et le système de la caution. Oui. Qu'on connaît tous, vous l'avez dit, Henri Hassan, bien sûr, parce qu'on a tous vu des films où le juge tape de son marteau en disant ben voilà, soit vous allez en prison.
Moi, je l'ai découvert dans Lucky Luke, j'étais petit à la fin.
Ah oui,
d'accord. Je savais que c'était possible de payer pour pas aller en prison.
Tu as toujours des références.
Mais oui, t'as vu.
Déjà.
Pardon.
Et du coup, le système de la caution, c'est un système où les gens doivent payer pour pas partir en prison, pour éviter la prison, des sommes suffisamment importantes. Pour qu'ils reviennent, en fait. Donc, le constat de cet article intéressant, c'est assez court, d'ailleurs. Il y a eu des études de fait et qui montrent, en fait, les effets pervers de ce système qui va favoriser, entre guillemets, enfin, qui ne va pas défavoriser les riches, parce que eux, évidemment, ils peuvent toujours payer les cautions. DSK a payé sa caution, bien sûr, il a pu partir. Mais le problème, ce n'est pas les riches, c'est les pauvres. Qu'est-ce qui se passe avec les pauvres ? Il y a comme un phénomène de domino, où comme les pauvres ne peuvent pas payer les cautions qu'on leur demande, même si on peut imaginer qu'on demande moins à un pauvre qu'à un riche, ça reste quand même des grosses sommes. Ils parlent de 10 000 dollars.
C'est ça,
10 000 dollars en moyenne. Donc ça reste des grosses sommes. Du coup, les pauvres, soit ils vont en prison, et comme ça peut durer, parce qu'ils vont en prison en attente d'être jugés, ça peut durer quelques mois, ils parlent même d'années, pourquoi pas, plus d'une année. Et puis la prison, là-bas, ça rigole pas, comme ici, j'imagine. Donc il y a des gens qui vont se retrouver près des tribunaux et qui vont proposer aux pauvres de payer pour eux, voilà. Ça s'appelle les bondsmen, avec toute une histoire d'assurance, avec des assurances qui vont avec. Et évidemment, ce service-là n'est pas gratuit.
Ben, c'est ça.
Parce que l'idée de la caution, c'est quand même que si jamais, qu'à la fin du procès, que la personne soit reconnue coupable ou pas, elle retrouve sa caution. L'idée de la caution, c'est pour éviter de remplir les prisons. Donc même s'il est coupable, il retrouve sa caution. D'ailleurs, dans l'article, l'autrice, d'ailleurs, pour le coup, nous dit que souvent, les juges y récupèrent un peu de la caution. En général, la caution n'est pas récupérée à 100%. Ah.
Non, pardon, Pierre, continue.
Oui, je t'en prie. Ah, c'est un téléphone, c'est joli. Et du coup, la caution va être récupérée à la fin. Donc, ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est qu'on va leur proposer de payer la caution. Donc, qui va leur être rendu à la fin, donc qui ne devrait pas leur coûter d'argent, entre guillemets. Sauf que, évidemment, comme c'est un prêt, ça marche comme un prêt. Alors, ils parlent de 15%. Les études ont montré que c'est en général les gens pauvres aux États-Unis, c'est souvent les Afro-Américains, c'est d'une part, et qu'ils vont se retrouver. À payer. Alors, le chiffre qu'il donne, ça paraît incroyable. Ça se chiffre en milliards. Ce sont des milliards de dollars qui sont récupérés grâce à ce système. Évidemment, c'est injuste, c'est une justice injuste, et le monde diplomatique n'est pas le seul à s'en rendre compte. Même là-bas, aux États-Unis, ils essayent de trouver des solutions, bien que, évidemment, les assurances et les fameux bondsmen, ils sont pas, eux, je trouve que le système va très bien, ils font du lobbying pour que rien ne bouge. Mais quand même, ils se rendent compte qu'il faudrait bien changer les choses. C'est lent. Je crois qu'il donne en fin d'article 3-4 solutions. Il parle un peu de bricolage. Enfin, chaque État essaye de faire ce qu'il peut. Il y en a qui interdisent les assurances. Il y en a d'autres qui essayent de faire des cautions un peu moins importantes, etc. Mais bon, le système est toujours le même, et on est en attente d'un changement, quoi.
Victor ?
Oui, en fait, c'est assez intéressant, ce truc-là, parce que ça fait penser au débat sur les garanties de représentation en France. C'est-à-dire qu'en France, quand on passe devant un tribunal après une audition ou quoi que ce soit, avant le jugement, donc la condamnation ou la libération, en fait, on établit ce qu'on appelle la liste des garanties de représentation, c'est-à-dire est-ce que la personne a une adresse, est-ce que la personne travaille, est-ce que la personne est mariée, etc. Et tout. Et si jamais on a suffisamment de garanties de représentation, on va laisser la personne repartir pour qu'elle puisse venir à son procès, parce qu'on considère qu'elle est suffisamment insérée dans la société pour pouvoir se représenter à son procès. Et bien évidemment, du coup, quand on n'a pas de garantie de représentation, on va en maison d'arrêt.
Oui, c'est ça.
Et bien évidemment, du coup, les personnes qui ont moins de garantie de représentation, ce sont les personnes immigrées, ne parlant pas le français, qui n'ont pas de travail, etc. Et tout. Et c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à ça. Du coup, le système, et d'autant plus qu'on sait que quelqu'un qui est passé par la maison d'arrêt sera forcément plus durement condamné que quelqu'un qui n'est pas passé par la maison d'arrêt à fait égal.
Donc, c'est exactement la même chose aux États-Unis. Là, ça me rappelle un petit détail. Les femmes blanches sont moins, on leur demande moins de caution que les femmes noires.
C'est ça, c'est marqué dans l'article.
Parce qu'on leur fait tout simplement plus confiance.
C'est ça.
Et donc, proportionnellement, on demande plus aux gens pauvres. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de décrire, ouais. Victor.
Et comme tu disais, Pierre, on en parlait très peu dans l'actualité aux États-Unis. C'est revenu. Là, la une, récemment, quand il y a eu des manifestations pour Black Lives Matter, ouais. Il y a eu énormément d'emprisonnements de Noirs et qui n'avaient pas d'argent. Donc, il y a eu les bondsmen sont sortis. Et il y a eu des journalistes qui ont vu ça, qui ont sorti des articles là-dessus. Et il y a un mouvement maintenant, il y a un projet qui est lancé, qui s'appelle The National Bailout, pour essayer d'abord de donner moins de place aux bondsmen et de faire participer.
Ouais, voilà. Il explique qu'il y a cette organisation là, des associations qui payent, qui se proposent de payer la caution des gens. D'ailleurs, il dit en passant que le pasteur, comment il s'appelle, celui qui a été
Martin Luther King.
Martin Luther King est sorti de prison grâce à quelqu'un qui a payé sa caution.
Le bail-out, ouais.
Il n'avait pas l'argent, mais un bienfaiteur l'a payé pour lui.
C'est ça.
Voilà, ça faisait partie des solutions qu'il proposait, que les États mettent en place. Ouais. Moi, ce que je trouvais assez intéressant, si des gens qui auraient l'article sous les yeux, c'est la série de titres qu'il renvoie. Est-ce que vous l'avez ?
Sur les
précédents articles. Je trouve que
prison ou bracelet, la fausse alternative.
Voilà.
Un pays miné par les homicides policiers. des vies plus précieuses que d'autres. Ce que révèle l'affaire Epstein. En Louisiane, prison cherche prisonniers. États-Unis, République des avocats. Et les États-Unis, malades de leur prison.
Voilà, donc ça donne tout un champ d'investigation intéressant.
Par une belle référence cinématographique, le film de Quentin Tarantino.
Tout à fait, absolument.
Jackie Brown.
C'est ça.
Qui est d'ailleurs une hôtesse de l'air noire.
Noire.
Exactement. On ne peut pas avoir confiance.
Voilà. À lire tranquillement à la plage cet été. La caution pilier du système judiciaire. Aux États-Unis, la liberté à but lucratif.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Nous allons terminer maintenant avec l'Estonie. Boris,
oui.
Je disais, ce petit pays limitrophe de la Russie, comme tous les pays qui sont devenus indépendants.
Sont proches, ouais, ouais.
Oui, après la chute de l'URSS, ce pays craint énormément la présence encore de la Russie, notamment avec la guerre en Ukraine.
Ben, ça a été un déclencheur, hein, mais bon, ça remonte à plus loin. Hein. L'Estonie, donc le titre, c'est l'Estonie sur un pied de guerre, hein, par Damien Fauconnier, un journaliste, avec au-dessus un petit titre... Hein, ouvrez les guillemets, hein. Si Poutine veut venir, il viendra.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà. Il y a un petit titre au-dessus qui est très significatif. Hein. Donc, l'auteur commence par commenter une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux. Hein. Le 9 mai, dans une commune frontalière de l'Estonie, la ville russe fête la victoire sur l'Allemagne nazie. Hein. Du côté estonien, un manifestant brandissant un drapeau ukrainien est agressé avec le soutien des gens autour. C'est-à-dire que... En fait, montrer qu'on était pour l'Ukraine, là, à la frontière, c'était quand même très, très risqué. Hein. Ça se passe dans la ville de Narva, hein, où une grande partie de la population est russophone. 90% de Russes dans cette ville. Hein. Bon, en Estonie, un quart de la population est russophone. Bah, moi, je vais revenir, je fais un petit rappel sur les ex-colonies russes. Ouais. C'est lui qui a parlé de colonies.
Ouais,
on pourrait dire, pardon, sur les ex-républiques de l'URSS, hein, dont les États baltes, hein, Lituanie, Lettonie, Estonie, indépendants depuis 18, occupés en 40, hein, suite au pacte germano-soviétique Hitler-Staline de 39. Hein. Forte présence de population russe. Estonie, bon, la capitale Tallinn, 1,4 million d'habitants, 31% de russophones. Enfin, je ne sais pas si russophone ou russe, ce serait peut-être mieux de dire russe. Hein.
Tu crois ?
Ouais, je pense, parce qu'ils sont vraiment très, très russes. Hein.
Oui, oui, oh,
bah, voilà.
Oui, on voit bien, on le voit bien.
Lettonie, capitale Riga, 1,9 million d'habitants, 35% de russophones, avec un cas très particulier hein, et emblématique, c'est Riga, 50% de russes.
Oui.
Voilà. Lituanie, donc le propre de l'article, hein, capitale Vilnius, 2,8 millions d'habitants, seulement 9% de russophones. Donc là-bas, c'est un peu plus calme, hein, ils sont un peu plus sereins. Hein. Je vais aussi parler de la Transnistrie, hein, capitale Tiraspol, un ex-morceau de la Moldavie, hein, déclaré unilatéralement indépendant en 91. C'est une véritable armurerie. Hein. Il stationne la 14e armée russe hein, et c'est carrément un arsenal. Hein. Donc ça faisait partie de la Moldavie, hein, capitale Chinisto, 2,6 millions d'habitants, seulement 4% de Russes.
Ouais.
Voilà. Essentiellement des Ukrainiens et des Roumains. Mmh. Hein. Mais bon, là-bas, c'est un peu plus calme, sauf qu'ils ont peur de cette Transnistrie hein, qui est à côté. Et on pourrait bien sûr, on en a parlé, hein, de l'Ukraine avec la Crimée, hein, le Donetsk, dont la part des Russes était largement supérieure à 60% avant la guerre, maintenant probablement encore plus. Hein. Donc pour revenir à l'article, hein, toujours par rapport à Narva, hein, 90% de Russes, donc une affiche à l'effigie de Poutine avec ces mots « criminel de guerre » a été affichée sur un des bâtiments. Et donc cet acte provoque une confrontation entre les gardes frontaliers des deux pays.
Ah oui, mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo.
Non, je n'ai pas vu.
Allez-y, je crois qu'on peut le trouver sur YouTube, là. Et c'est drôle. C'est drôle. Mais en même temps, tu te dis...
C'est significatif.
Oui, tu te dis que une étincelle de rien, ça... Il y a des morts.
Voilà. Les Russes ont réclamé à la police que l'affiche soit retirée et ils ont refusé. Ils ont laissé l'affiche. Hein. Voilà.
Ça se passe comme ça là-bas. Bon,
voilà. Hein, ça dénote quand même d'une atmosphère très électrique qui règne depuis l'invasion de l'Ukraine.
Oui, bien sûr.
Voilà. Les trois pays baltes craignent bien sûr d'être agressés et l'aide apportée à l'Ukraine est proportionnellement à la richesse des trois pays les plus importantes du monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que proportionnellement à leur richesse, c'est quand même trois petits confettis. Hein. Mm-hmm. Ça fait à peine 5 millions d'habitants par rapport aux 140 millions de Russes. C'est eux qui donnent le plus à l'Ukraine. Hein. Mm-hmm. Bon, après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a renforcé sa présence militaire. On voit même filmer un soldat de la Légion étrangère française faire la démonstration d'un char français. Donc ça fait aussi partie de la propagande. Et il faut remarquer que la France va fournir des missiles un peu plus importants et un peu plus meurtriers que ce qu'elle a fourni jusqu'à présent. Au niveau de la navigation maritime, l'Estonie contrôle maintenant toutes les embarcations russes dans ses eaux territoriales. Normalement, voilà. Le budget militaire a doublé. Attention, hein, c'est une goutte par rapport à l'effort militaire russe. Et le pays est en train de se doter d'un système de défense aérien fourni essentiellement par les membres de l'OTAN. Les Estoniens expriment leur inquiétude d'une nouvelle invasion russe par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Seuls les citoyens des États membres de l'Union européenne ou de l'OTAN peuvent acquérir des armes. Et d'ailleurs, c'est un phénomène récent. De plus en plus d'Estoniens achètent des armes. Donc voilà. Hein. Attention, hein, exclut les citoyens de la minorité russe qui, pour certains, ont dû rendre leurs armes. Le parapluie OTAN, 17 fois le budget militaire de la Russie, est bien entendu renforcé et se renforce de plus en plus. Paradoxalement, les russophones suivent les infos sur les médias russes par le biais d'Internet. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent absolument pas lituaniens, estoniens ou autres membres baltes. Ils ne suivent que les infos russes.
Oui.
Hein, donc, et ils continuent à faire confiance à Poutine, ce qui, bien entendu, n'est pas très bon pour les relations dans ce pays. 5% de citoyens binationaux, les Russes n'ayant pas obtenu la nationalité estonienne à l'indépendance, continuent à franchir sans visa les deux pays. Voilà. Donc ça aussi, ça pose un problème parce que ben, ça permet d'infiltrer et de faire entrer des informations autres. Pour sa défense, hors OTAN, l'Estonie peut compter sur la Ligue de défense civique d'environ 30 000 citoyens armés et qui s'entraînent régulièrement. Donc on leur apprend à utiliser des armes militaires. Madame Kallas, la dame de fer, a remporté les élections législatives de mars 23 en évinçant le parti du centre, un parti qui avait eu un accord en 2007, c'est-à-dire environ 13 ans, avec le parti de Poutine.
Tout à fait.
Donc voilà, forte implantation anti-Poutine. Alors il faut aussi se rappeler que en 40, quand la Russie, enfin quand l'Union soviétique occupe les pays baltes, j'ai les chiffres pour la Lituanie, je n'ai pas les chiffres pour les autres. Ils ont déporté 40 000 personnes. Quand ils ont repris après l'invasion nazie, entre 45 et 47, ils ont exfiltré, ils ont déporté 140 000 Lituaniens. Hein. À la même époque. Rappelez-vous, hein, on en avait parlé ici, hein, Staline embarque les 800 000 Tatars de Crimée et les déporte en Sibérie. Il n'y en a que 30 000 qui sont revenus. Hein. On parlait justement de la présence russe en Crimée. La présence, elle vient là. L'Union soviétique a toujours remplacé des ressortissants des pays qu'elle exportait vers la Sibérie par des citoyens russes. Hein. Et souvent des ex-militaires. Il faut savoir que le service militaire en l'Union soviétique, mais je pense qu'en Russie, c'est pareil, ça allait de 3 à 5 ans suivant les armes. Et donc après, pour service rendu, eh ben, on leur donnait la place d'une personne qui avait été déportée et ils profitaient de la maison, etc., du jardin et tout ça. Bon, et je passe sous silence les 170 000 juifs en Lituanie que les nazis ont aussi massacrés.
Ouais.
Donc c'est une poudrière. Que va faire Poutine? Bon, Poutine, de toute façon, maintenant, il est quand même coincé par rapport à l'OTAN. Parce que bon, ça s'est très fortement renforcé. Je parlais de la présence de Français là, pour la démonstration sur les chars, mais il y a énormément de nationalités de l'OTAN qui sont maintenant sur place.
Oui.
Comme nous, les Français, bon, on est par exemple en Roumanie. Voilà.
Bien sûr, oui.
C'est inquiétant sans l'être. Disons que c'est dramatique pour surtout deux pays, hein, pas la Lituanie, mais l'Estonie et la Lettonie, où la prépondérance russe.
Ces pays baltes, il y a une très forte idée de la survie. Ils se disent que peut-être l'Ukraine. Au début, je pense, ils pensaient que l'Ukraine allait tomber très vite. Tout le monde pensait que l'Ukraine allait tomber très vite et qu'ils allaient suivre derrière. Mais cette implantation des Russes dans les pays baltes ou dans d'autres coins de l'ancienne Union soviétique, j'ai pu le remarquer moi-même. Il y a beaucoup de Russes qui se sont installés ailleurs, notamment en Ukraine. Et ce problème-là, il est insoluble.
Non,
parce qu'ils sont très russophones, russophiles.
Ils sont russes.
Voilà. Ils revendiquent des droits. L'ex-Yougoslavie a pu gérer ça avec les Serbes qui étaient installés un peu partout. Enfin, je dis ça, je touche du bois. La Bosnie-Herzégovine, vous voyez.
Ça s'est pas bien passé.
Non, absolument. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement pour les Russes qui disent qu'ils n'ont pas envie de prendre deux nationalités, de devenir des Ukrainiens, de devenir des Lituaniens. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est une poudrière. Poutine va peut-être partir du pouvoir bientôt, mais ça va rester.
Mais il y a 2 ans, on en avait parlé. Il y avait eu un article sur la Lituanie. Bon, pour un autre propos, il n'y avait pas encore un peu plus de 2 ans. Il y avait encore la guerre en Ukraine. Et ils interviewaient un homme. Donc la Lituanie, où il y a quand même très peu de Russes. Hein. Il était russe à la frontière. Et ce vieux disait, moi, j'attends les Russes.
C'est ça. Oui, non, mais
j'attends les Russes. Ils vont venir.
Réellement. Non, mais réellement, et c'est un vrai, vrai problème.
Ils ont toujours l'idée de leur empire, oui.
C'est ça.
De colonies. Et,
c'est ça.
Oui,
et
des
ils
colonies.
Ils retrouvent toujours là-dedans.
Mais
c'est vrai que c'est une fierté mal placée. Puis ouais. Ils ne retrouveront jamais ce lustre-là, mais néanmoins,
mais
ça reste.
Ils sont persuadés de ça. Et puis, il y a l'OTAN hein, qui est réunie là, jusqu'à demain à Vilnius, justement, en Lituanie. Où le président Macron, en arrivant aujourd'hui, a dit qu'il allait envoyer encore plus d'armes en Ukraine. Ils sont tous réunis contre en Russie en ce moment. Enfin, aujourd'hui, tous les journaux titraient le sommet contre la Russie, ce qui n'est pas faux. Mais
non.
Donc, enfin, c'est ça qui est dangereux et problématique, parce que on parle de Poutine, on parle de son gouvernement, de son armée, mais il y a des populations qui sont installées là-bas qui disent oui, mais nous, on est russes, on n'a pas envie de changer de nationalité, de venir. Et ces gens-là, on en fait quoi, même si Poutine perd? Belle question. Hein. Bah, je vous promets, je vous propose de réfléchir à ça, les amis du monde diplomatique, pendant l'été.
On pourrait prévoir une certaine autonomie, comme ça se passe en Belgique ou dans d'autres pays. Hein.
Possible.
Voilà. Oui, c'est possible. Bon, possible. Même si en Belgique, ça ne passe pas si bien que ça. Non. Ouais.
Oui, parce que s'il y a beaucoup de Russes effectivement installés maintenant et qui vivent dans ces pays-là depuis plusieurs décennies.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est normal qu'ils s'y sentent chez eux.
C'est ça.
Mais c'est cette guerre, évidemment, à faire remonter plein de choses plus ou moins nauséabondes, qui fait qu'on peut se demander, mais la paix entre eux va avoir du mal à émerger, hein, parce que ça fait beaucoup de mal. Et déjà, quand est-ce que ce conflit ukrainien va se terminer?
Mais quand est-ce qu'il se terminera? C'est bien le problème.
On envoie des armes de plus en plus puissantes. On se demande d'ailleurs ce qui reste à détruire, parfois, quand on voit certaines photos. Et puis... Pour ce qui n'est pas dit, c'est quand même pour les pays occidentaux qui se défendent, certes, enfin qui défendent l'Ukraine en se défendant, c'est que c'est un terrain d'essai pour leurs armes.
C'est
phénoménal. Ils ont plein de choses qui sont en train de...
Ils jouent quelque part
à la guerre,
hein, oui,
avec des armes de plus en plus impressionnantes et meurtrières.
Et il faut le dire.
Et les drones qu'on prépare en France, là, parce qu'on s'est rendu compte de l'importance des drones. Ils sont en train de faire des drones super puissants en France. Hein.
La seule chose qui est intéressante, c'est pour les Français, c'est que les drones des services fiscaux vont être peut-être détournés pour l'armée. Puisque, attention pour ceux qui ont une piscine et qui n'ont pas déclaré.
Ou une extension de bâtiment sans l'avoir déclaré.
il va manquer de drones.
C'est ça, absolument.
Ça, je suis pour.
Victor aura une piscine.
Non, mais pour les drones qui calculent les piscines et les extensions sur les voies publiques, ça, je suis pour.
Merci à vous, les amis du monde diplomatique.
Si on peut citer, l'été n'est pas toujours propice à aller au cinéma, mais on a tort. Il y a des très bons films en ce moment qui passent au Carme, et notamment qui ne déplairaient pas du tout, bien sûr, aux diplos. C'est Les filles d'Olpha,
tout à fait,
qui est un très beau film, à moitié documentaire, sur une mère qui parle de ses deux filles. Deux de ces quatre filles qui se sont radicalisées, qui sont parties faire le djihad, etc. Et je crois que ce film est très, 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 très bien fait. C'est à la fois documentaire. D'ailleurs, elle joue elle-même, mais il y a quand même une actrice qui joue son rôle. Je crois que qui plus est, comme le film est monté, c'est très intéressant.
C'est au Carme.
Et c'est au Carme.
Évidemment, ou d'autres.
Et oui.
Merci à vous pour cette année encore, les amis du monde diplomatique. On se retrouve en septembre. Vous allez passer de bonnes vacances, j'espère. Il y a une dernière émission mardi prochain où on parlera de culture essentiellement.
Ah bon?
Oui.
Ah, je crois que c'était la dernière aujourd'hui.
Non, mais je sais pas si tu reviens.
Oui, si, voilà. Je suis dispo.
On va parler de culture. On essaye en tout cas d'avoir des invités pour parler de culture, des propositions culturelles à Orléans cet été. Passez de belles vacances, les amis.
Bonnes vacances à tous.
Merci.
Bonnes vacances à tous.
On va attendre les amis, justement, de Raidon, qui ne sont pas encore là. J'espère qu'ils vont venir à Tours, à 21h. Il y a du jazz, normalement. Ben, on va mettre un peu de musique en les attendant. C'est du proto-reggae, je ne sais pas si c'est marqué comme ça. Le gars, il s'appelle Protasov. C'est un Bulgare qui est installé en Allemagne. Et il fait un peu de reggae. Donc, il a dit, moi, mon truc s'appelle du proto-reggae. Ça s'appelle I Want. Pour terminer à bâton rompu aujourd'hui, passez une belle soirée, une belle semaine, à mardi prochain.
No regrets, no blue. Fire, we never. Soldiers and black gowns walking their rounds, tombstones where flowers should be.